Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 17 novembre 2022, en direct pour nous des studios de Choc.ca à l'UQAM à Montréal. Donc, je suis avec Simon. Bonsoir.
Salut, Mathieu. Salut, Marie-Ève.
Et Marie-Ève qui est à la mise en onde et qui va nous parler tout à l'heure de plein de choses.
Bien sûr. Est-ce que c'est le bon niveau pour le micro pour moi?
Un peu plus élevé,
ok, il faut le mettre.
Donc, c'est Mathieu qui est à l'animation aujourd'hui. Donc, émission bien remplie, il y a beaucoup d'actualités, c'est l'automne, autant au niveau local, national qu'international. Donc, comme d'habitude, on vous parle d'enjeux de frontières, de racisme, de droits humains, d'immigration, évidemment. Quelques sujets aujourd'hui, on parlait des Amériques, quelques nouvelles avec Simon, on parlait d'Israël-Palestine avec Marie-Ève. Je vais vous parler du dernier recensement en lien avec les données sur les Autochtones au Canada. Je vais vous parler aussi de nouvelles frontières, nouveaux murs en Europe. Je vais vous parler à l'instant, dans quelques secondes, de Concordia de McGill, les universités montréalaises anglophones où il se passe des choses. Et aussi, Marie-Ève va nous parler d'immigration ici au Québec et au Canada avec un petit côté éditorial qui va faire plaisir à notre ami Roger. On salue en passant. Donc, voilà, pour nous rejoindre en tout temps, nous écouter en tout temps, c'est sur notre page sur le site de choc.ca. Notre site internet apatridesanonymes.info, on a un courriel qui est apatridesanonymes@resist.ca et on a une page FB où on met plein d'articles d'actualité si ça vous intéresse de nous suivre, de suivre l'actualité avec nous. Donc, dans quelques secondes, après quelques notes de musique, on commence le tout. Donc, McGill, Concordia, qu'est-ce qui se passe? C'est des nouvelles des dernières semaines. Premièrement, un juge de la Cour supérieure du Québec a ordonné l'arrêt temporaire des travaux d'excavation dans un important projet de l'Université McGill, qui est le réaménagement du Royal Vic, après qu'un groupe autochtone eut soulevé des inquiétudes à propos d'éventuelles tombes anonymes. Kimberly Air Murray, l'interlocutrice spéciale indépendante nommée par le fédéral dans le dossier des enfants disparus et des lieux de sépulture anonymes, a déclaré que le juge a demandé aux parties de préparer un plan de recherche de tombes anonymes. Les plaignantes, ce sont les mères Mohawk qui ont intenté un recours en justice en mars contre l'Université McGill et la Société québécoise des infrastructures. L'interlocutrice du fédéral, Mme Murray, qui a demandé le statut d'intervenante dans cette affaire en août, a déclaré que le juge a accepté sa demande et qu'elle participera à des conférences et à des réunions avec les deux parties. Le groupe appelé Mère Mohawk ou Kanyenke Aka Kanistensera estime que les travaux passent avant la recherche d'éventuels corps d'Autochtones enterrés. Il y a quelques décennies sur place. Ces Autochtones auraient, selon elle, été victimes des expériences psychiatriques menées par le docteur Cameron à l'Institut Memorial de McGill dans les années 50-60, ce qu'on connaît comme histoire, évidemment.
Donc, ce qui concerne pas juste des personnes autochtones, quand même, non plus.
Mais... Non.
Mais non. Qui seraient enterrées sur place, probablement que oui.
Oui, puis il y a eu des personnes autochtones qui ont été victimes de ces tests-là. Ça, c'est connu, par exemple. Ce que les Mères Mohawk veulent avant tout, c'est qu'une enquête indépendante soit menée par des Autochtones, comme le préconisent des recommandations de la Commission de vérité et réconciliation, la fameuse commission avec toutes ces recommandations. Donc, c'est temporaire comme injonction, donc à suivre pour la suite, mais là, les travaux seraient stoppés. Du côté de Concordia, l'université a présenté des excuses officielles aux communautés noires pour les préjudices causés par le racisme institutionnel et en particulier pour les événements qui ont conduit à l'émeute raciale de Sir George William en 1969 à Montréal. Les excuses de Concordia ont été présentées lors d'une cérémonie sur le campus il y a deux semaines. On a aussi publié le rapport final sur le racisme à l'égard des Noirs à Concordia. Ce rapport formule des recommandations pour aider l'université à restaurer ses relations avec les communautés noires de Montréal. Angélique Wilkie, présidente du groupe de travail de Concordia sur le racisme contre les Noirs, a déclaré que le rapport constitue un moyen de donner une voix aux communautés de Concordia et de reconnaître leurs priorités et leurs expériences. Dans ses excuses officielles, l'université affirme que le racisme institutionnel persiste aujourd'hui dans l'enseignement supérieur et en particulier à Concordia. Pour poursuivre le travail de lutte contre le racisme à l'égard des Noirs, l'université s'engage notamment à embaucher un membre du corps professoral pour diriger le développement de programmes d'études sur la diaspora noire et africaine dans le contexte canadien, à promouvoir les perspectives noires dans la recherche ainsi que les chercheurs noirs et à établir de nouvelles relations avec les communautés noires de l'Université et de Montréal. Fait qu'à suivre pour Concordia. Ça fait suite à d'autres universités qui avaient aussi mis sur pied des groupes pour lutter contre le racisme institutionnel et qui avaient eu des recommandations dans le même genre un peu partout au Canada dans les dernières années.
Oui, donc, mais étant donné les événements justement de Sir George Williams
en 69,
qui avait donné lieu, comme tu disais, à des émeutes,
des arrestations et tout
disons
ça.
Disons que ces excuses-là étaient longuement attendues.
Oui, oui, ça fait quand même 53 ans, oui, okay, on peut dire ça. Mais c'était réapparu dans les dernières années avec un documentaire, entre autres, avec des démarches qui avaient été faites par des anciens profs, anciens étudiants. Donc, voilà. Fait que c'est ça pour les petites nouvelles montréalaises universitaires. Simon,
ouais,
je te passe la parole.
Je vais la prendre.
Vas-y.
Quand même, une personne embauchée à Concordia avec un gros mandat, on dirait.
Oui, oui, oui. Précis et large en même temps. Oui, t'as raison.
Oui, assez large. Donc, moi, je vais vous parler de système carcéral, de profilage envers les Noirs, envers les Autochtones, ce qui nous amène, pour commencer, naturellement, à Thunder Bay, le Repentigny ontarien. On a souvent parlé de Thunder Bay, qui a un bilan policier et judiciaire vraiment horrible, surtout envers les Autochtones.
Exact.
Des disparitions, des morts, des enquêtes bâclées sur les enquêtes bâclées. Il y a une enquête actuellement qui concerne deux hommes autochtones morts en cellule dans des postes de police, de la police de Thunder Bay. Le verdict est tombé début novembre. Premièrement, il y a eu la mort de Don Mamakwa, un membre de la communauté Oji-Cri du lac Kassabonica, mort à 44 ans en 2014. Et celle de Roland Mackay, son oncle, mort en cellule à 50 ans en 2017. On va se concentrer sur le cas de la mort de Don Mamakwa.
Les deux de la même famille qui sont morts, hein, c'est bien ça.
Oui, mais à quelques années d'intervalle, okay, et dans des circonstances
semblables,
mais qui ne sont pas reliées.
Parfait.
Donc, l'enquête sur la mort de Don Mamakwa, celui qui est mort à 44 ans, elle illustre assez bien toutes les ratées, selon les mots de son avocate, de la chaîne d'intervention d'urgence envers les personnes marginalisées à Thunder Bay. Malheureusement, souvent, les personnes marginalisées à Thunder Bay sont des personnes autochtones, en majorité. Monsieur Mamakwa était intoxiqué au moment de son arrestation, mais il avait répété plusieurs fois aux agents de police qu'il avait besoin d'aide médicale et qu'il se sentait très mal, qu'il avait de la difficulté à respirer, donc tous des appels à l'aide qui ont été ignorés. Si Monsieur Mamakwa avait été amené à l'hôpital plus tôt en cellule, il aurait eu 97% plus de chances de survivre. C'est un médecin qui a témoigné pendant l'enquête qui le dit. Avec résultat de l'autopsie à l'appui, et ce qu'il nous disait, c'était que c'est une combinaison de facteurs qui est mortelle si c'est pas traité rapidement, mais très facile à soigner quand c'est pris en charge de manière, dans des délais raisonnables.
Oui, mais comme ils disent, 90% de chances que ce serait passé autrement si...
97 en plus,
c'est ça,
il ose quasiment dire 100%.
Ben, c'est ça, c'est assez clair.
Donc, les policiers qui sont intervenus suite à un appel d'un résident ont témoigné, et un des agents, on va le nommer, Ryan Krupa, a dit qu'il était certain que M. Mamakwa a demandé à être amené à l'hôpital seulement pour avoir un sandwich gratuit. Donc, c'est quand même une belle candeur.
C'est la meilleure place pour les sandwichs gratuits.
Ben oui, il y a... sans commentaire. Les ambulanciers aussi ont foiré à plusieurs niveaux, dont le fait de juger que M. Mamakwa n'avait pas besoin d'être amené à l'hôpital, ce qui est au-delà de leurs compétences, des compétences d'un ambulancier. Si quelqu'un veut être transporté à l'hôpital, les ambulanciers doivent l'amener, point. La seule raison de ne pas amener quelqu'un qui en a fait la demande, c'est si la personne change d'idée. Il y a eu plein d'autres erreurs de communication et de protocole, et le jury a conclu que plusieurs biais inconscients avaient agi dans le déroulement de cette intervention qui a mené à la mort de Don Mamakwa à Thunder Bay en 2014. Suite à ces enquêtes-là, c'était comme une enquête plutôt conjointe avec celle de son oncle, 35 recommandations ont été adressées par le jury à la police, aux paramédics de Thunder Bay et au gouvernement ontarien, dont... toujours un peu les mêmes choses, beaucoup plus de ressources d'aide et d'hébergement adaptées aux personnes autochtones aux prises avec des dépendances ou avec des enjeux de santé mentale. Miser plus sur la prévention que sur la répression, ce qu'on répète partout dans le monde depuis tout le temps, puis il n'y a pas grand-chose qui change. Plusieurs autres enquêtes actuellement à venir sur la police de Thunder Bay et ailleurs au Canada sur le mauvais traitement de membres de Première Nation, et à l'occasion, quand des verdicts vont tomber, on vous en parlera. Les conclusions risquent d'être semblables à ce que je viens de dire. Ça fait des années qu'on répète la même chose. Je vous parle maintenant du 49e rapport annuel de l'enquêteur correctionnel du Canada, l'Ombudsman qui traite les plaintes des détenus et de leurs proches. Le rapport démontre que malgré les 70 recommandations en lien avec les populations autochtones depuis le tout premier rapport de l'enquêteur en 79, Service correctionnel Canada semble vraiment très peu préoccupé de la situation. puisque presque rien est mis en œuvre, à part une formation ici et là. Et malgré tout, la situation des Autochtones dans les prisons fédérales continue de s'aggraver. Donc, elle est postable, elle s'aggrave année après année. Le ton du rapport annuel cette année, j'en ai lu d'autres par le passé. Je me souviens pas avoir lu un rapport avec un ton aussi dur envers Service correctionnel Canada. Donc, on sent plus juste le découragement, mais vraiment le ras-le-bol et la colère dans le rapport. Le message adressé à Service correctionnel Canada est clair, genre sortez-vous les doigts du nez, réveillez-vous et agissez.
Mm-hmm.
Le rapport mentionne des choses qu'on connaît déjà, surreprésentation autochtone dans la population carcérale qui est en augmentation, surreprésentation qui augmente, il faut le faire, surtout dans le contexte où la population carcérale allochtone diminue dans les dernières années.
Mm-hmm.
Donc c'est le contraire pour les Autochtones. Ouais. On y voit aussi de quelques statistiques assez effrayantes. Pour la première fois, les femmes autochtones ont représenté l'année dernière la moitié des admissions dans les prisons fédérales.
Ah ouais, ah ouais.
Et parmi elles, 65 % sont classées au niveau de sécurité maximale.
Mm-hmm.
Le rapport donne toutes sortes d'exemples de conditions pas très reluisantes. Des femmes autochtones laissées nues en cellule pendant des jours ou le recours pour les détenus autochtones très généralisé au trou.
À l'isolement.
Ben, ce qu'on appelle unité d'intervention structurée. Mais c'est vraiment être mis dans un placard sans fenêtre pendant des heures.
Ouais.
Ben, des jours même, je pense, parfois. On indique même textuellement que le système carcéral actuel incarne le néocolonialisme moderne. C'est dit tel quel dans le rapport.
Dans le rapport, oui.
En insistant sur le fait qu'on coupe complètement les prisonniers et les prisonnières autochtones de leur culture, comme au temps des pensionnats, avec des programmes et des services qui ne sont pas du tout adaptés. On souligne encore une fois le manque de formation des agents correctionnels sur les réalités autochtones, et encore une fois. Et question de montrer la belle évolution de notre société, dans le même rapport, on peut lire que les Noirs aussi sont surreprésentés dans les prisons fédérales et que leur situation est aussi mauvaise et à certains égards pire qu'il y a 10 ans. Donc, même chose que pour les Autochtones, les Noirs surcriminalisés, surdétenus. Malgré le fait que les Noirs, c'est aussi dans le rapport, ils présentent des meilleurs taux de réinsertion et de non-récidive suite à leur sortie, mais malgré tout, leur situation continue de se détériorer. Donc, je pourrais continuer longtemps. Je vais terminer avec la suggestion d'un article qui est sur pivot.québec, qui fait suite à la décision récente de la Cour supérieure du Québec d'interdire à la police de faire des contrôles routiers aléatoires, contrôles qui visent presque toujours des hommes noirs. Le titre de l'article dit tout, le profilage racial des jeunes au-delà des interpellations routières. On rappelle que cette dynamique du profilage existe pas seulement en voiture, mais sur les trottoirs, dans les parcs, dans les aéroports, dans les endroits privés qui engagent des agences de sécurité privées, pardon, et même dans les écoles où se trouvent parfois des policiers. Dans l'article, il y a des liens qui mènent à des rapports plus détaillés sur le profilage racial dans certains quartiers de Montréal. Je rappelle le titre de l'article. Le profilage racial des jeunes au-delà des interpellations routières sur pivot.québec.
Ben merci beaucoup, Simon.
Ça fait plaisir.
Très instructif. Et c'est un sujet dont tu as souvent parlé toi-même et nous tous. Là, nous,
j'ai l'impression qu'à part quelques nuances près, on se répète quand même.
On se répète nous aussi, malheureusement.
Ben oui.
On va entendre quelques notes de musique et je vous parle dans quelques secondes de l'Europe. C'est à mon tour. La forteresse Europe qui se renforcit de plus en plus, on vous en parle beaucoup aussi à l'émission, Marie-Ève particulièrement. Donc, deux nouvelles récentes, selon l'accord conclu avec l'Union européenne, dont les contours exacts n'ont pas été communiqués, des agents de Frontex vont se déployer aux frontières de la Macédoine du Nord. Ça, c'est dans l'ancienne Yougoslavie, là, c'est une des républiques de l'ancienne Yougoslavie. Donc, Frontex cherche à renforcer sa présence dans les Balkans. Depuis quelque temps, on le savait, mais là, ça va encore plus loin. L'Agence européenne de surveillance des frontières continue son expansion dans les États non membres de l'Union européenne.
C'est surprenant quand même.
C'est ça la nouvelle, là, entre autres. Les passages dits illégaux de migrants le long de la route des Balkans vers l'UE augmentent régulièrement depuis 2018, depuis la fameuse année dont on parle souvent. Dans cette région, plus de 105 000 franchissements de frontières ont été détectés par Frontex entre janvier et septembre de cette année, 2022. Une hausse considérable par rapport à 2021, où moins de 62 000 traversées avaient été enregistrées tout au long de l'année. Frontex a déjà conclu des accords avec l'Albanie, la Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. L'Agence européenne a promis à ses 4 pays partenaires d'investir 350 millions d'euros dans la lutte contre l'immigration dite illégale entre 2021 et 2024. Frontex a annoncé ces dernières années une phase de déploiement inédite. L'agence prévoit ainsi de disposer d'un effectif proche de 10 000 gardes de frontières et gardes-côtes à l'horizon 2027. Les pratiques de l'agence suscitent par ailleurs régulièrement des inquiétudes. Ces derniers mois, un rapport de l'Office européen de la lutte antifraude avait épinglé Frontex, on vous en avait parlé, accusé d'avoir dissimulé entre le printemps et l'automne 2020 des refoulements de migrants en violation du droit international, des faits que l'agence ne nie plus. Mi-octobre, elle a reconnu de graves fautes de conduite, assurant qu'elles avaient été commises par les dirigeants de Frontex d'alors. C'est tout récent qu'il y a un demi, finalement, au mois d'octobre. Sinon, ben la Pologne, craignant des arrivées de migrants orchestrées par la Russie, le ministre de la Défense polonais a annoncé la construction immédiate d'une barrière à la frontière avec le territoire russe de Kaliningrad, dans le modèle du mur déjà élevé à la frontière biélorusse. Une barrière de 2,5 mètres de haut avec trois rangées de barbelés s'élèvera bientôt le long des 210 km de frontière qui séparent la Pologne de l'exclave de Kaliningrad. Exclave, nouveau mot pour moi. Cette décision fait suite
par opposition à enclave.
Enclave, ouais.
Ça, c'est un petit bout russe qui n'est pas rattaché au reste.
Exactement, qui est sur la mer Baltique.
Comme un appendice.
Exactement. Voilà. Cette décision fait suite à l'annonce des autorités aéronautiques russes de libéraliser le trafic aérien avec l'exclave de Kaliningrad. L'aéroport de Kaliningrad accepte désormais les vols en provenance du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. En juillet, le premier ministre polonais avait inauguré un mur de près de 5 mètres de haut le long de la frontière biélorusse. On en a parlé aussi beaucoup. Fin août, la Lituanie a également achevé la construction d'une clôture de barbelés sur ses 550 kilomètres de frontière avec la Biélorussie. Le 6 juin, la Finlande avait, quant à elle, annoncé vouloir clôturer sa frontière Est avec la Russie, craignant des représailles hybrides dans le contexte de la guerre en Ukraine et de sa candidature à l'OTAN. Fait que tout ça pour dire qu'en dépit de la pratique courante de refoulement appliquée par la Pologne, une centaine de tentatives de passage à la frontière poléno-biélorusse sont signalées quotidiennement par les gardes frontières et les ONG présents sur place, même si encore il y avait une zone où les ONG, les journalistes ne pouvaient pas aller en Pologne, ouais, près de la frontière biélorusse. Ils l'ont, ouais, réduite, mais il y a encore une zone. Mais ils sont quand même capables de détecter une centaine d'entrées par jour, malgré le mur, malgré tout ça. Et là, ils font la même chose avec Kaliningrad. Et la Lituanie a fait la même chose. Et la Finlande voudrait faire la même chose. Donc, la forteresse Europe, hein, voilà, exactement. Puis le prétexte de la guerre en Ukraine puis de la Russie est assez
facile.
Le dos
large, ouais.
Large quand même.
Est-ce qu'on donnait, c'est quoi, c'est des gens qui arrivent par avion du Moyen-Orient, c'est ça? Ou?
Ben, à Kaliningrad, c'est qu'ils viennent autoriser les vols internationaux vers ces pays.
C'est vraiment ce qui est constaté. Là.
C'est que la Pologne, oui, ça a été une directive réglementaire qui a été faite il y a deux semaines. Fait que okay. La Pologne a tout de suite, c'est ça, ils vont nous envoyer des migrants là, qui viennent du Moyen-Orient. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun, tu sais, il n'y a rien, là, mais c'est, ouais. C'est préventif. Fait qu'on va aller en musique, mesdames et messieurs, avec un groupe qui s'appelle, attachez votre sucre, Embo Flebit. Embo / Flebit. La pièce s'appelle Hibou. C'est un mini-album qui s'appelle Les Autres Liaisons qui est sorti en novembre actuellement 2022. C'est un quatuor de Montréal qui existe depuis 2018. Et sur cet album-là, Yon avait confié, qui est à la réalisation, mais qui joue aussi des instruments. C'est dans le palmarès francophone de Choc. Et ils ont joué à Coup de cœur francophone la semaine passée avec Nouchou, un autre groupe à Navet Confit. Donc, on y va avec la pièce Hibou.
Ta voix, elle me dit que tu me connais déjà, que tu me vois, que tu lis dans ma tête mes épaules, mes genoux, mes orteils, mes yeux, mon lit, ma bouche, mes oreilles.
Petits airs de Grimmskunk à la fin.
Un peu, hein?
Quand même. Avec un peu de clavier. Donc, c'est le groupe Embo Flebit de Montréal, la pièce Hibou. Hibou sous genou. Mariette, tu nous parles d'immigration ici, finalement, Québec-Canada, puis avec un constat un peu direct.
Déplorable. Un peu choqué,
là. Ouais, ouais, vas-y, on t'écoute.
À moins d'avoir vécu en dessous d'une roche depuis les dernières semaines, vous savez que le gouvernement Trudeau a annoncé vouloir accueillir 500 000 personnes immigrantes par année d'ici 2025. Évidemment, c'est pas parce que tout à coup le fédéral s'est transformé en défenseur de la libre circulation des personnes. Aucun non. Ce sont encore les visées utilisatrices qui l'emportent. Le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, a affirmé que ces nouveaux seuils-là sont nécessaires pour assurer la prospérité économique du Canada dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. L'idée est donc de privilégier l'immigration économique, vous vous en doutez, sur la base des compétences professionnelles ou de l'expérience de travail des demandeurs-demandeuses. Le plan prévoit que d'ici 2025, 60 % des nouveaux immigrants seront admis dans la catégorie immigration économique.
Ouais.
Évidemment, Ottawa, d'un autre côté, là, prévoit une diminution globale du nombre des réfugiés accueillis au pays et une légère augmentation pour ce qui est de la réunification familiale. Trudeau en a profité pour faire la leçon à Legault en le pressant d'augmenter lui aussi le nombre de personnes migrantes accueillies au Québec. Puis dans la même logique, je le cite, « Je sais que chaque fois que je parle à des propriétaires d'entreprises à Montréal ou en région, ils soulignent à quel point c'est important de contrer la pénurie de main-d'œuvre. » On sera toujours là pour aider M. Legault s'il veut créer plus de croissance économique au Québec.
C'est clair.
Legault, lui, a rejoué la cassette de la capacité d'accueil, de francisation et d'intégration de la province, qui serait, selon lui, parce qu'on ne sait jamais ces chiffres-là d'où est-ce qu'ils sortent, donc de 50 000 personnes migrantes, pour ensuite faire un genre de volte-face en affirmant qu'il serait peut-être prêt à augmenter le nombre d'immigrants permanents, mais seulement s'ils sont francophones.
Déjà, ouais.
Voilà. Ouais. Et selon les informations qui sont parues dans les médias, il semblerait que ce soit surtout pour des personnes qui sont déjà en sol québécois aussi, par exemple des diplômés d'une institution francophone, là, universitaire ou cégep, ou des travailleuses temporaires francophones, déjà, je cite, bien intégrés au Québec depuis plusieurs années. Donc, l'objectif serait de garder ces familles-là, ces étudiants étudiantes, ces travailleurs dans la province en créant une espèce d'autre voie plus rapide vers la résidence permanente. Mais là, pour l'instant, il n'y a aucun chiffre qui a été fourni. Ni de façon là, dont tout ça va être soit mis en place ou concrétisé. Le plan d'immigration au Québec pour 2023 devrait être déposé d'ici la mi-décembre. Et le prochain plan triennal là, pour 2024-2026 va lui être connu dans un an. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'on parle des personnes migrantes comme si c'était des marchandises ou des ressources ou encore même des biens meubles comme à l'époque de l'esclavage. Je rappelle d'ailleurs que toute la prospérité économique, pour reprendre les termes de Fraser et consorts, donc toute la richesse des États-Unis et des puissances coloniales s'est construite sur le dos des des peuples exploités, mis en esclavage ou même carrément massacrés. C'est la même logique, selon moi, qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui et qui est derrière les discours des politiques et des lobbies économiques quand ils parlent d'immigration. Le mot d'ordre, c'est de garder les frontières fermées le plus possible, d'ouvrir les vannes un peu, évidemment, bon, à certaines personnes et sous certaines conditions, là, on s'entend, pour satisfaire des objectifs purement utilitaires. Et on se fout pas mal des raisons qui les ont poussées, toutes ces personnes-là, à quitter leur pays. On se fout des sacrifices que ces milliers de personnes doivent faire pour venir ici ou des conditions dans lesquelles elles travaillent puis dans lesquelles elles vivent, pour pas dire survivent une fois arrivées. Je vous donne un exemple très concret. De plus en plus de personnes immigrantes se trouvent en situation d'itinérance un peu partout dans le monde, mais là, ce qu'on sait plus, c'est que le phénomène est à Montréal. On sait que lorsque les demandeurs d'asile passent la frontière au chemin Roxham, entre autres, ils sont d'abord accueillis à l'hébergement du programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, le PREDA. Mais puisque les centres débordent et que les 1200 places sont occupées, ben souvent, à peine ils sont installés dans le YMCA, entre autres, géré par PREDA, les demandeurs d'asile se font mettre la pression pour se trouver un nouveau toit. Mais la plupart des logements qui se présentent sont inaccessibles. Ils doivent donc se tourner vers des ressources communautaires. À Montréal, il y a 3 centres d'hébergement spécialisés pour demandeurs d'asile. Là, à l'heure actuelle, c'est pas possible de mesurer là, l'ampleur de ce phénomène d'itinérance chez les demandeurs d'asile, puisque ben, ils sont pas comptabilisés lors des dénombrements des personnes en situation d'itinérance à Montréal. Mais il y a une statistique qui circule actuellement dans le milieu. Dans les hébergements dits traditionnels en itinérance, il y a près de 10 % de la population qui serait constituée de demandeurs d'asile ou encore
itinérante.
Ben, dans les hébergements là, qui utilisent les ressources d'hébergement traditionnelles vouées à l'itinérance dans le sens large. Donc, ce serait soit demandeur d'asile ou sans papier. C'est le cas d'ailleurs au refuge des jeunes à Montréal, où l'équipe a même dû développer une expertise là, pour accompagner les jeunes dans leur demande d'asile, pour se familiariser avec les procédures et assurer le suivi auprès des avocats spécialisés en immigration. Depuis le début de l'année, il y a 25 hommes sans statut qui ont poussé les portes du refuge. Parmi eux, 11 sont des jeunes avec un visa d'étudiant échu qui souhaitent rester au Canada. Donc, on voit là un peu le portrait. Mais qu'elle passe par les hôtels gouvernementaux ou les centres communautaires, le défi reste le même là, pour toutes ces personnes migrantes-là, c'est de trouver un logement abordable et en bon état. Et contrairement à ce qu'un certain discours prétend, la crise du logement explique pas à elle seule les difficultés des personnes migrantes à se trouver un toit ou pas. Ouais, c'est ça. On le sait, il y a certains propriétaires de logements qui ont des pratiques je vais être poli, discutable.
Discriminatoire.
Discutable, comme demander un dépôt équivalent à 6 mois de loyer, devoir fournir 5 références d'emploi antérieures ou même exiger une connaissance du français. Ça, c'est des témoignages de personnes migrantes là, qui...
Pour un logement, ça.
Pour un logement.
Pour un logement, oui.
Et puis, ben encore faut-il en avoir les moyens aussi, là, parce que l'obtention du chèque d'aide sociale peut être un véritable parcours du combattant. Les délais sont longs avant que l'argent arrive, là, sans lequel la transition vers le marché du travail peut être vraiment difficile. Même chose pour le permis de travail comme tel. Avant la pandémie, il était possible de les obtenir en quelques semaines. Aujourd'hui, il faut attendre plusieurs mois, voire plus d'un an. Fait que toutes ces causes-là ont un point en commun, c'est qu'elles sont systémiques. Et si les gouvernements se souciaient vraiment du sort des personnes migrantes, ils mettraient en place les ressources nécessaires pour les accueillir dignement. Un toit, des papiers en règle, un permis de travail, des cours de français gratuits, un accès immédiat et sans condition à l'éducation, aux soins de santé, à des services psychologiques aussi. Bref, le fardeau de la responsabilité repose sur les épaules des États, pas des personnes qui quittent leur pays par choix ou par nécessité et qui doivent tout laisser derrière elles.
Fait que tu demandes un statut pour tout le monde, finalement.
Oui, je voulais le dire en d'autres mots.
Il y a un beau programme de régularisation qui s'en vient du fédéral.
Ben, en tout cas, je te dis que Trudeau n'est pas pressé de l'annoncer. Hein? Il y a une délégation la semaine passée.
Cette semaine. Lundi.
Oui, cette semaine, exactement. Oui, t'as raison.
Les sans-papiers qui sont allés rencontrer le ministre et le NPD pour parler de ça. Mais écoute, Ouais, les espoirs sont grands.
Puis là, je parle même pas de toutes les morts, c'est l'hécatombe actuellement en Europe. Là, les morts s'empilent sur à peu près toutes les routes migratoires. C'est vraiment... ouais.
OK. On en parlera dans deux semaines. Oui, oui, oui. Merci Marie-Ève pour toutes ces informations et cette intervention bien sentie. Donc, je poursuis avec, je reviens avec les Autochtones. Simon en a parlé tantôt. Plus des chiffres, ça va être un peu plus straight comme truc. La population autochtone, toujours en croissance au Canada. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis affichent une population plus jeune que le reste des Canadiens, si on le savait. Nous révèlent les nouvelles données du recensement de 2021 de Statistique Canada qui sont sorties en septembre dernier, mais on n'en a pas parlé encore. Le recensement de 2021 a permis de dénombrer 1,8 million d'Autochtones au Canada, ce qui représente 5 % de la population totale du pays, en hausse de 0,1 % par rapport à 2016. Ils sont en rivalité avec le nombre d'immigrants qui rentrent, là, 500 000. Là, ouais. Les trois groupes autochtones ont connu une croissance de 9,4 % de 2016 à 2021, soit une hausse plus importante que celle de la population non-autochtone de 5,3 %. Mais sur les chiffres, c'est sûr que ça paraît moins parce qu'ils sont moins nombreux. Les Autochtones vivant en milieu urbain ont aussi augmenté. Entre 2016 et 2021, cette population a augmenté de 12,5 %.
Oh, ça, c'est beaucoup.
Ce qui équivaut à un total d'un peu plus de 800 000 personnes dans les villes. En 2021, c'est Winnipeg qui comptait la plus grande population autochtone, suivie d'Edmonton et de Vancouver. Mais à Montréal, en 6 ans, il y a une augmentation de 32 % des Autochtones à Montréal. Puis ça, je pense qu'on le sait. Donc, la population autochtone canadienne est en moyenne 8,2 ans plus jeune que l'ensemble de la population non autochtone. Au niveau des langues, plus de 237 000 personnes autochtones pouvaient parler une langue autochtone. Vous pouvez parler une langue traditionnelle, suffisamment pour tenir une conversation, ce qui correspond à une baisse de 4,3% par rapport à 2016. Ça, c'est un peu plus inquiétant. Les langues autochtones les plus couramment parlées étaient les langues cri, Inuktitut, Ojibwe et Ojikri. Sinon, je vais terminer là-dessus pour les Autochtones et les chiffres. Au niveau de la protection de l'enfance, on en parle souvent. Il y a des chiffres dans le recensement aussi. Ça va fesser, je vous avertis. Donc, les enfants autochtones continuent d'être surreprésentés dans les services de protection de l'enfance. Les enfants autochtones représentent 53,8 % de tous les enfants placés au Canada et ils ne comptent que pour 7,7 % des enfants de moins de 14 ans au Canada. Au Manitoba, ce chiffre grimpe un peu plus de 90 % parmi les près de 10 000 enfants placés dans la province. Donc, il y a un gros problème, entre autres, au Manitoba. Le fédéral a légiféré en 2020 pour renforcer le droit des Premières Nations, des Inuits et des Métis à exercer leur autorité en ce qui concerne les services de protection de l'enfance dans le but de réduire le nombre d'enfants autochtones placés. Depuis, 37 groupes autochtones ont signifié leur intention d'exercer seuls cette autorité et 27 veulent élaborer des ententes avec le provincial ou le fédéral pour gérer, on en a parlé déjà, entre autres, des Atikamekw ici au Québec puis des Inuits. Donc, tous les chiffres, ça vous intéresse du recensement en lien avec les Autochtones. Il y a un gros dossier spécial qui a été fait par Espace Autochtone Radio-Canada en septembre 2022. Si vous voulez plus de chiffres sur les Autochtones en ville, sur les langues, sur les enfants, sur un paquet de choses, allez voir ça. Il y a plusieurs articles vraiment intéressants. Donc, voilà, j'ai pas trop de chiffres, c'était correct,
c'était digeste.
C'était digeste, ok, merci.
Ben, c'est que les écarts sont tellement importants que, tu sais,
ça frappe quand même, mais il faut le redire, parce que même si on le sait, ça s'améliore souvent pas. Quelques notes de musique, et on revient avec, on s'en va ailleurs complètement, Israël-Palestine avec Marie-Ève. Donc, Marie-Ève, tu nous fais plusieurs suivis sur ce qui se passe en Israël et en Palestine. On en parle de temps en temps à l'émission.
Oui, mais là, ça faisait un petit bout de temps. C'est quand même important parce qu'il s'est tenu des élections législatives là en Israël au début du mois. On n'a pas tant que ça entendu parler. des élections qui ont ramené au pouvoir Benjamin Netanyahu comme premier ministre et à la tête d'une coalition d'extrême droite cette fois-ci. Netanyahu et ses alliés des partis ultra-orthodoxes et de la liste... d'extrême droite qui se nomme sionisme religieux. C'est pour vrai, c'est ça, là. C'est clair.
Ça flaire bon la liberté.
Oui, c'est cela. Ils ont remporté 64 sièges sur les 120 de la Knesset, le Parlement israélien, c'est-à-dire 3 de plus que le seuil de la majorité. Les 64 sièges du bloc de droite se déclinent comme suit. 32 pour le parti de Netanyahou, le Likoud. 18 pour les deux partis orthodoxes et un record de 14 pour l'extrême droite. Ce qui fait dire à plusieurs analystes que ce pourrait être le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays. Il y a même le journal Haaretz qui dit que Israël est sur le point d'entamer une révolution de droite religieuse et autoritaire dont le but est de détruire l'infrastructure démocratique sur laquelle le pays a été construit.
Quand même.
Quand même. Il faut savoir que dans le système proportionnel israélien, les partis doivent obtenir 3,25% des voix pour faire leur entrée au Parlement, un taux minimal là, qui leur donne de facto 4 députés. Or, deux petits partis hostiles à Netanyahou, et dont les élus auraient pu le priver d'une majorité, ont récolté respectivement 3,16 et 2,9 des votes. Donc, puis quand même, le taux de participation est un peu assez impressionnant. Il a été de 71,3%, soit le plus élevé depuis 2015.
Puis il y a eu 4 élections en 2 ans.
Là, oui, c'est que... ça. Fait que les gens pensaient que, ben, les analystes, justement, tout le monde pensait que les gens n'allaient pas se présenter pour le vote. Je rappelle aussi que le premier ministre sortant, Yair Lapid, avait chassé du pouvoir Netanyahou l'an dernier en mettant sur pied une coalition assez hétéroclite. Qui a depuis implosé. Mais contrairement à ce que souhaitaient ses opposants, Netanyahou avait pas quitté la vie politique. Il s'était accroché au poste de chef de l'opposition avec l'objectif de revenir au pouvoir pour faire voter une immunité par les députés et annuler son procès pour corruption.
Oui, c'est procès. Oui.
Je rappelle aussi que sous les précédents gouvernements de Netanyahou, la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés a beaucoup augmenté. Et plusieurs accords de normalisation là, avec des pays arabes, accords considérés comme une trahison là, par les Palestiniens, ont été signés. Côté palestinien, le résultat du scrutin israélien ont été perçus avec fatalisme.
Ben oui.
C'est le moins qu'on puisse dire. Le premier ministre Mohamed Chtayeh a affirmé ne se faire, je cite, « aucune illusion sur le fait que les élections israéliennes produiraient un partenariat pour la paix ». Au lendemain de l'annonce officielle du résultat des élections, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a réitéré l'appui des États-Unis à la solution à 2 États. C'est lors d'un appel au président de l'autorité palestinienne, le Mahmoud Abbas. Solution qui est depuis longtemps rejetée par Netanyahou, évidemment. Selon le département d'État, Blinken a souligné lors de l'appel sa profonde préoccupation quant à la situation en Cisjordanie, bon, partez les violons, notamment l'aggravation des tensions, blablabla. Mais la Cisjordanie, il faut aussi savoir que la Cisjordanie occupée connaît sa période la plus meurtrière là, depuis des années. Le territoire palestinien, le théâtre de raids quasi quotidien de l'armée israélienne et que ainsi que d'une augmentation des affrontements et des attaques contre les forces israéliennes. D'ailleurs, là, récemment, il y a un rapport qui a été rendu public à la mi-octobre. Francesca Albanese, qui est la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, elle a déclaré dans ce rapport que les agissements d'Israël contre les Palestiniens de Cisjordanie occupée s'apparentent à de la persécution. Elle évoque l'usage de la force létale contre des journalistes et travailleurs humanitaires qui critiquent Israël, ainsi que les mesures de détention provisoire des dirigeants à l'encontre des dirigeants là, politiques palestiniens, pardon. Selon le rapport, il y a près de 4500 Palestiniens qui sont actuellement détenus, dont 730 sans aucune accusation, en grande partie sur la base de preuves secrètes, tandis que des enfants âgés d'à peine 12 ans ont été victimes d'arrestations et de détentions arbitraires. On estime là entre 500 et 700 mineurs qui sont détenus chaque année par le gouvernement israélien. Je parlais là des travailleurs humanitaires. En août, les forces israéliennes ont fermé les bureaux de 7 groupes de défense des droits provenant de la société civile palestinienne en Cisjordanie occupée. Le rapport qualifie cette mesure-là d'abus de la législation antiterroriste. Et je termine en disant que le rapport appelle les États à exiger la fin immédiate de l'occupation illégale de la Cisjordanie par Israël et la restitution de toutes les terres et ressources dont le peuple palestinien a été déplacé et dépossédé, indépendamment des négociations entre Israël et la Palestine. Je la cite, vous allez voir un peu comme tu disais, Simon, concernant le rapport...
Correctionnel,
elle mange pas ses mots. Elle dit « La concrétisation du droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination exige le démantèlement définitif de l'occupation coloniale menée par Israël, ainsi que ses pratiques d'apartheid. »
Ah, fait qu'elle nomme le mot quand même.
Oui, okay, fait que, c'est ça.
Ça, c'est l'ONU, évidemment. Oh, et ça commence à être assez unanime, même dans les organismes les plus les plus diplomates ou les plus officiels. Là.
Oui, puis juste quelques jours, ben ça c'était plus à la mi-octobre, mais il y a l'Australie aussi qui a renversé une décision de l'ancien gouvernement conservateur et de ne pas reconnaître la ville d'Israël comme...
La ville de Jérusalem.
Jérusalem-Ouest.
Comme capitale.
Comme capitale d'Israël.
Oui, si on revenait en arrière comme d'autres.
Comme d'autres,
ouais. Tout à fait. Ben merci beaucoup, Maria, pour ces nouvelles. Il y en aurait plein d'autres. On poursuivra dans quelques semaines sur ce coin du monde très actif et très chaud. On va y aller en musique avec un groupe malien qui s'appelle Bekao. C'est la pièce Toubaro. BKO, la pièce Toumaro, tirée de l'album Gine Bora, leur troisième sorti en juillet dernier. C'est un quintet de Bamako, fondé en 2012 et installé à Lyon. Ils se décrivent eux-mêmes comme faisant de la Malian Crunchy Indie Rock, mais on voit beaucoup les influences du blues rock du désert, là, du Niger, du Mali, du Burkina. Donc,
t'as-tu
bon
un
groupe.
Choix à nous annoncer, Mathieu?
Ben non, malheureusement, ils jouent en France actuellement, mais Nuit d'Afrique. Hein, on vous interpelle, faites-les venir l'été prochain.
S'il vous plaît.
Ça serait le fun. Donc voilà pour cette deuxième pièce de l'émission. Je vais poursuivre avec Simon qui nous parle des Amériques au pluriel. Donc je te cède le micro.
Ben oui, l'Amérique, c'est pas seulement les États-Unis.
Oui, évidemment.
Donc je vais parler des États-Unis, du Brésil aussi, mais je commence avec des situations assez préoccupantes d'assassinats en Colombie. un peu partout dans le monde, en fait, parce qu'il y a Reporters sans frontières qui a invité des procureurs de plusieurs pays à co-signer une lettre qui vise à ramener les projecteurs sur le phénomène des journalistes assassinés.
Mm-hmm.
Et c'est pas François Bouguingo, là.
Non.
On y mentionne les chiffres de 2022 qui font état de 50 journalistes tués dans le monde cette année seulement, et l'année n'est pas encore terminée.
Ouais.
On parle depuis 2010 de 1000 journalistes qui ont été tués dans le monde, et dans 9 cas sur 10, il n'y a aucune sanction. Donc, soit qu'il n'y a pas eu d'enquête qui a été menée, ou s'il y en a eu une, ça a souvent été classé sans suite.
Mm-hmm.
Donc, dans la lettre, je cite, on parle de la désinvolture fautive, voire du camouflage de la part des autorités et d'impunité persistante. On parle de situations particulièrement difficiles en Russie, au Mexique et aux Philippines.
Bien sûr.
Ce sont les 3 pires pays. Pour lire la lettre, qui est un texte quand même assez coup de poing, cherchez le titre « L'appel du 2 novembre des procureurs de 8 pays s'engage contre l'impunité des auteurs de crimes visant les journalistes ». C'est un petit peu long à retenir comme titre, mais facile à trouver dans le site de Reporters sans frontières qui est rsf.org.
Ah, ça c'est facile.
On pourrait peut-être le mettre sur notre FB.
Oui, oui, tout à fait.
On mettra rsf.org sur notre FB. On passe en Colombie où c'est pas tant des journalistes qui sont tués que des militants sociaux et environnementaux. Beaucoup d'Autochtones qui, comme dans les prisons canadiennes, sont surreprésentés dans les assassinats de militants en Colombie par rapport à la proportion de la population locale générale. Il y a eu, bon, on le sait, les accords de paix, il y a eu
démilitarisation.
Merci à mes compères.
À certains endroits.
Démilitarisation de certains groupes. Il y a eu récemment l'élection d'un tout premier gouvernement de gauche, mais la violence ne faiblit pas, au contraire. 157 meurtres de militants des droits de la personne ou écologistes jusqu'à maintenant en 2022.
Ah oui, hein?
Soit 40% de plus que la même période en 2021.
OK.
Des meurtres qui seraient attribuables aux guérilleros, ceux qui sont toujours en activité, aux trafiquants de drogue et, il faut le mentionner, à du personnel armé de l'État colombien.
Mm-hmm.
Parce que malgré un nouveau gouvernement, renverser cette machine, c'est pas si simple que ça. Au point de vue strictement des meurtres de militants écologistes, la Colombie arrive au deuxième rang mondial derrière le Mexique.
Ah, bien sûr.
Et dans l'ordre, je vais vous nommer une couple de pays, vous allez voir, devant le Brésil, les Philippines, le Nicaragua, l'Inde, le Honduras, le Congo, le Pérou, le Guatemala, le Venezuela, l'Équateur. Je pense que c'est pratiquement tout en Amérique latine.
Oui, oui, à part le Congo.
Le Congo,
à part le Congo, Philippines et l'Inde, voilà.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, c'est une liste qui est compilée chaque année par l'ONG Global Witness. On va aller maintenant au Brésil, non plus pour des disparitions de militants ou du journalisme, mais pour parler de la communauté migrante haïtienne qui, mm-hmm, année après année, est de plus en plus nombreuse. Un peu comme au Chili, quand on est au Brésil, on est loin d'Haïti, on est encore plus loin des États-Unis, qui demeurent souvent l'objectif ultime de plusieurs migrants haïtiens. Au milieu des années 2000, c'était pas tant le rêve américain, mais l'économie du Brésil était en explosion. Il y avait de l'emploi pour tout le monde, et un peu comme au Qatar actuellement, on bâtissait des stades et des infrastructures,
ben oui,
en vue du Mondial et des Olympiques. Alors, on invitait carrément les personnes haïtiennes à venir dans les grandes villes brésiliennes pour s'y établir avec leur famille. Et ça avait provoqué l'immigration de 140 000 Haïtiens vers le Brésil. Depuis ce temps-là, la situation économique a beaucoup, beaucoup changé, surtout au niveau de l'emploi et du coût de la vie.
Oui, mm-hmm, puis pas en mieux, hein?
Ben non, en très, très... ça s'est considérablement dégradé, ouais, détérioré. Et aussi, ben, il y a eu quand même, au niveau social, le gouvernement Bolsonaro qui était ouvertement raciste, anti-noir. Donc, on se retrouve dans un contexte qui... Yeah, au niveau, comme on disait, au niveau économique, au niveau social, qui c'est vraiment... et en plus de ça, beaucoup de ressortissants haïtiens ont perdu leur statut, leur permis ont été expirés, par exemple. Donc, se ramassent dans des situations administratives précaires. Donc, impossibilité à la fois administrative et économique de louer un logement. Et on ajoute les discriminations raciales à la recherche de logements. Par exemple, à Sao Paulo seulement, on compterait au moins 300 immeubles squattés par la diaspora haïtienne.
Quand même.
Des immeubles parfois immenses, comme le plus célèbre, l'Occupa Sao Porto Principe, ou en français, Squat de Port-au-Prince. Une ancienne usine métallurgique qui abrite pas moins de 200 familles, mais qui pourrait être expulsée du bâtiment par son propriétaire n'importe quand.
Mm-hmm.
Donc, les Haïtiens du Brésil, une communauté qu'on va observer dans les prochains mois, voir comment ça va évoluer, comment il va dealer avec cette précarité qui est vraiment grandissante.
Ils sont comme bloqués là un peu, c'est ça. Là.
Ben, quand on se ramasse en situation précaire, l'argent sert à se nourrir puis à se loger de manière souvent informelle.
Quotidienne.
Oui, puis parce que de toute façon, je pense pas qu'ils veulent retourner en Haïti dans la situation actuelle qui prévaut là-bas non plus.
Puis monter vers le nord, c'est pas évident. Là,
ben non. Que
c'est
ça.
Non. Ben, beaucoup souhaitent, dans les articles que j'ai lus, aimeraient aller au Canada, entre autres.
Bien
mais
sûr,
évidemment, ouais. on est coincé là. On va aller aux États-Unis maintenant pour le restant de mon segment international. Donc, d'abord, faire un beau cheers à la condamnation à 6 mois de prison pour Steve Bannon, ex-conseiller de Trump, fondateur, je crois fondateur de Breitbart News, qui est un organe de propagande suprémaciste. Mm-hmm. Bref, l'un des racistes les plus influents des États-Unis. Il s'en va pas en prison pour incitation à la haine raciale, mais pour son obstruction des enquêtes sur l'assaut du Capitole. Il porte ça en appel, donc il ira pas tout de suite, mais les preuves sont accablantes, donc il devrait y aller bientôt. Donc on prendra un petit shooter après l'émission pour souligner ça.
OK.
Autre propagandiste d'extrême droite malmené par la justice, Alex Jones, gourou du site alt-right conspirationniste InfoWars, deuxième condamnation pour lui dans l'affaire de l'école Sandy Hook au Connecticut, où on se rappelle plusieurs enfants avaient été massacrés. Lui disait que c'était une mise en scène orchestrée par les lobbies du contrôle des armes à feu.
Bien sûr.
Donc là, il est rendu à presque 1,5 milliard à verser aux proches des victimes.
Je pense qu'il va faire faillite.
Ben, je sais, je crois pas qu'il soit si riche que ça, j'ai aucune idée. Peut-être qu'il va devoir réhypothéquer sa maison. Et nous, aux apatrides, ça nous fait peut-être une deuxième tournée de shooter pour tantôt. Aux États-Unis, ben, on vous parle souvent d'immigration, de racisme, de bavure policière, mais rarement d'immobilier. Qui pourtant et historiquement est un sujet clé dans la discrimination raciale aux États-Unis. Les ghettos se sont fermés en exerçant une discrimination systématique sur l'immobilier. Beaucoup de villes qui sont très, très ségrégées géographiquement. Beaucoup de villes aussi qui ont tenté toutes sortes d'expériences pour atténuer un peu cette ségrégation spatiale, mais sans beaucoup de succès. Il y a Washington qui est la dernière ville à avoir tenté à plus grande échelle de... Ben, en tout cas, au moins de s'adresser au problème. Elle a mis sur pied une commission sur l'accès à la propriété pour la population noire et son rapport vient d'être publié. Les conditions sont alarmantes, évidemment.
Évidemment, oui.
Il faut dire que la situation des populations noires de Washington, D.C. empire depuis des années au point que les acquis qui avaient suivi la fin officielle de la ségrégation sont en train de s'effriter complètement. Au point qu'on pense retourner aux situations qui prévalaient du temps des ghettos.
Mm-hmm.
Ce sera non plus des ghettos dans le inner city qu'on appelle ou les quartiers plus centraux, mais on a vraiment un exode des populations noires vers les banlieues de Washington parce que les quartiers centraux sont un peu comme à Montréal,
trop cher.
Ouais. D'ailleurs, il faudrait se pencher sur le problème ici. La gentrification, elle a des effets sur les populations migrantes à Montréal.
Aussi.
Sans nécessairement parler de ghettoisation, mais enfin... autrefois, c'était via les actes notariés des propriétaires qui souhaitaient vendre. On inclut des clauses interdites de vente à des Noirs. Maintenant, c'est la gentrification qui crée de la ségrégation. Donc, on est au stade des recommandations pour l'instant. Faudra voir dans les prochaines années s'ils arrivent à infléchir peut-être un peu cette tendance.
Ça serait intéressant à suivre,
Voir si d'autres villes aussi vont suivre. Juste pour la route, je vous donne dans l'ordre les grandes villes qui se classent en tête de la ségrégation géographique aux États-Unis. En premier, New York.
Ah oui.
En deuxième, Chicago. Ensuite, Milwaukee. Puis, Détroit, Miami, LA, Cleveland et Philadelphie. Et suggestion de lecture pour terminer, grand dossier du journaliste de Radio-Canada, Romain Chouet, sur des migrants africains à Portland, Maine.
Maine, oui.
Qui sont coincés dans des refuges, pas d'argent pour poursuivre leur route. Peut-être une situation similaire aux Haïtiens du Brésil.
Mm-hmm.
Ils sont dans des situations administratives souvent compliquées. C'est un récit numérique assez dur qui est très illustré par plein de, malgré tout, magnifiques photos prises par le photographe Ivano Demers. Et ça s'intitule « Le pays de rêve, c'est pas l'Amérique, c'est le Canada ». Et donc, oui, même dans le très touristique et très coquet état du Maine, il y a des enjeux migratoires assez graves.
C'est clair. Donc, sur le site de Radio-Canada, hein, c'est
exactement.
Bien ça. Parfait. Ben, merci beaucoup, Simon, pour toutes ces nouvelles très complètes et très très intéressantes sur les Amériques. Donc,
on pourrait tellement en dire plus.
Oui, ben, on en reparlera évidemment dans les prochaines semaines. On écoute quelques notes de casserole et on va avec l'agenda. Donc, donc un événement. Premier événement, c'est en ligne. Ça s'appelle le droit de manifester en Afrique, enjeux et menaces. C'est le jeudi 24 novembre à midi. C'est organisé par Amnesty International. C'est sous la forme d'une discussion entre des intervenants et intervenantes qui témoigneront en direct d'Algérie, du Cameroun, de la Guinée, du Maroc et du Sénégal. Donc, assez intéressant, des pays où il y a beaucoup de répression actuellement. Donc, 24 novembre à midi en ligne, c'est organisé par Amnesty. Pour les Journées québécoises de la solidarité internationale 2022, l'ACOSI, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, ont choisi de parler de justice économique ainsi que des actions alternatives et solutions des communautés qui la défendent. C'est jusqu'au 30 novembre, partout au Québec, il y a plein d'événements en ligne et en personne. Un exemple, une conférence de Kalpona Akhtar, militante syndicale du Bangladesh, à Rivière-du-Loup le 25 novembre, sur place. Un panel en ligne, justice économique dans l'industrie du textile et de l'habillement, tisser les luttes, les gains et l'espoir. C'est le 28 novembre en ligne. Donc, ça se passe à Montréal, à Québec, un peu partout. C'est jqsi.qc.ca, Journée québécoise de la solidarité internationale. Les 25 ans des rencontres internationales du documentaire de Montréal, il y avait une pub au début de notre émission.
Ça commence là, je pense.
Ce soir, c'est du 17 au 27 novembre exactement à Montréal, mais il y a des choses en ligne si vous n'êtes pas à Montréal. Trois suggestions de films. Le mythe de la femme noire, le 22 novembre. Afin de mieux déconstruire les stéréotypes associés à l'image de la femme noire, la cinéaste Ayana Ushun a passé en entrevue de nombreuses femmes afin qu'elles racontent l'historique de ces stéréotypes et partagent les incidences frustrantes et souffrantes qu'ils ont occasionnées dans leur vie. Intéressant. La République du silence, le 22 novembre toujours, adoptant une approche très personnelle et autobiographique et prenant ses distances du didactisme, la cinéaste Diana L. Géroudi témoigne de la tragédie collective du peuple syrien, morcelée par une construction narrative non linéaire qui relève d'une grande affirmation artistique. Donc, c'est un film artistique, mais sur la guerre en Syrie. Et troisième femme cinéaste, j'ai fait exprès de prendre trois femmes, Big Fight in Little Chinatown, le 24 novembre, Karen Cho, la réalisatrice. Ces quartiers de grande valeur historique, culturelle et sentimentale qui côtoient maintenant les quartiers aisés sont menacés de disparition par ceux qui veulent exploiter leur terrain de grande valeur immobilière. Donc, Big Fight in Little Chinatown dénonce ces tentatives d'éviction et montre la combativité des communautés pour défendre ces lieux patrimoniaux auxquels elles tiennent plus que tout partout en Amérique du Nord.
Donc, c'est ça. C'est ça, j'allais demander.
Oui, c'est ça, exactement. Et dernière suggestion, un livre. La journaliste Caroline Monpetit propose une immersion dans les 11 langues autochtones du territoire québécois en dressant le portrait d'un locuteur de chacune d'entre elles dans son nouveau livre, Bonjour Koué, à la rencontre des langues autochtones du Québec. Remanié en court récit, les entrevues constituent dans cet essai un panorama vivant de la diversité linguistique autochtone. L'ouvrage d'à peine plus de 100 pages se présente humblement comme un tour d'horizon, simple et accessible pour les gens qui s'intéressent aux questions autochtones. Fort à propos en cette décennie internationale des langues autochtones, l'ouvrage s'applique à démontrer comment les langues vernaculaires jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne des Autochtones et comment l'héritage linguistique a fortement pâti des politiques assimilationnistes canadiennes. Chaque chapitre s'achève sur des statistiques linguistiques de la communauté mentionnée et propose quelques mots dans cette langue. Donc, face à l'urgence de préserver ces trésors, Caroline Monpetit rappelle les différents leviers législatifs récemment annoncés par les gouvernements, dont la loi sur les langues autochtones datant de 2019 qu'Ottawa s'est engagé à mettre en œuvre. Et elle souligne qu'à trois jours du scrutin du 3 octobre, François Legault a dit dans une conférence de presse qu'elle allait légiférer pour protéger les langues autochtones au Québec. À suivre.
C'est publié où?
C'est chez Boréal. Ça s'appelle Bonjour Koué à la rencontre des langues autochtones du Québec.
Caroline Monpetit.
Caroline Monpetit qui est journaliste au Devoir depuis très longtemps. Donc, voilà pour l'agenda. On y voit avec quelques notes de musique et c'est malheureusement la conclusion.
Ah non.
Bien oui, j'ai oublié de vous mentionner que l'Assemblée générale annuelle de choc.ca sera le 30 novembre à 12h45 ici à l'UQAM, en personne et en ligne. Donc, pour tous les étudiants et étudiantes de l'UQAM, les employés, ça vous tente, et les auditeurs, auditrices de notre émission et de Choc, vous êtes invités à participer à cette assemblée le 30 novembre. Ben, c'est la fin de l'émission. Vous pouvez nous suivre, comme je disais en début d'émission, un peu partout. Notre site, le site de Choc. On a une page FB, on a un courriel. Je voudrais remercier Simon.
C'est moi qui te remercie, Mathieu.
Fait plaisir.
Belle animation, merci.
Merci beaucoup. Marie-Ève, merci à toi pour, entre autres, la technique et aussi tout le contenu.
Oh, ben c'est un plaisir.
C'est un plaisir. Donc, on va se laisser en musique avec du solide. Le groupe s'appelle Conan ou Conan.
Du méchant.
Conan, la pièce Righteous Alliance de l'album Evidence of Immortality sorti en août dernier. C'est un groupe de Doom de Liverpool en Angleterre qui existe depuis 2006, que j'ai connu tout récemment et que j'ai vu au Fouf il y a quelques semaines.
Ben
c'était
oui.
Très bon d'ailleurs en show. Donc, on va se laisser avec ça.
C'est dans le palmarès brutal de Choc?
Ou ça l'est plus, ça l'a été cet été, mais d'accord, là, d'accord. Brutal. Oui, mais c'est du Doom. Donc,
méchant.
Brutal, Brutal est vraiment le nom du palmarès métal de Choc.
Spécialisé de Choc. Donc, dans deux semaines, on vous parlera aussi sûrement des manifs contre la COP15 à Montréal. Il y a pas mal de choses qui s'en viennent là-dessus. Donc, prochaine émission le 1er décembre. C'est un rendez-vous à 18h30 et on vous souhaite une très très belle soirée à tout le monde.
Ben oui, puis nous autres, on va aller boire des shooters à l'incarcération de ou à l'accusation. La...
Alex Jones.
La possible.
Et l'autre,
Steve
Bannon.
Steve
là.
Bannon et Alex
ouais,
Jones.
Oui, oui, oui. Et aussi Donald Trump et compagnie. Donc ben oui. Voilà. On se laisse avec Conan, la pièce Righteous Alliance. Bonne soirée.